J'aimerais lire un verset de l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 10. Donc l'évangile selon Matthieu, chapitre 10. Et nous lirons le verset 28. Où il est écrit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître l'âme et le corps dans la géhenne. » Voici notre lecture pour ce matin. On l'a dit la semaine dernière. J'aimerais revenir ce matin sur ce que nous avons vécu durant cet été, en particulier les attentats qui ont frappé notre pays et aussi d'autres parties du monde. Dispersés dans nos lieux de vacances, nous les avons vécus de façon séparée. Il me semblait intéressant de revenir dessus. Vous dites peut-être que c'est une drôle de parole pour la rentrée. Pour la rentrée, on aime avoir quelque chose de stimulant, quelque chose tourné vers le mouvement, la mise en action, quelque chose de positif. Et puis, ces attentats, c'était quand même il y a longtemps, c'est un peu dépassé. Ça fait rabat-joie de parler de ça. J'ai trouvé ce dessin sur Internet, sur Facebook. Donc ce dessin qui explique le cycle de qu'est-ce qui se passe quand il y a une attaque terroriste. Donc il y a une attaque terroriste, on est choqué et tout le monde sur Facebook, sur Twitter va mettre « Pray for » et puis le nom de la ville. « Pray for Paris »,« Pray for Nice », etc. On va ajouter un drapeau du pays sur sa photo de profil. Et puis après, on va revenir à la normale jusqu'à la prochaine attaque où le cycle recommence. Je m'excuse auprès de ceux qui ne sont pas accros à Facebook, mais je trouve que c'est un bon exemple parce que Facebook, c'est un bouillon d'émotions où les gens réagissent, se répandent de la même façon que ce qu'on fait dans la vie et peut-être avec une loupe, quelque chose d'un peu plus grossi. Donc voilà, une attaque terroriste, beaucoup d'émotions qu'on exprime plus ou moins adroitement, et ensuite un retour à la normale. Et je pense que ça vaut le coup de se poser pour réfléchir et ne pas comme ça tourner en boucle. Les dernières attaques ont suscité beaucoup d'émotions. L'effroi, la peur, la haine. Ça a été l'occasion de se souvenir, de se rappeler que la vie est fragile et que la mort est présente. Parfois, on peut l'oublier, mais intellectuellement, on le sait. Et là, l'actualité rencontre l'intellectuel et nous le rappelle. Il y a une prise de conscience que des activités qu'on ne soupçonnait pas être dangereuses le sont en fait. Aller à un concert, prendre un verre en terrasse, se rendre à un feu d'artifice. Et avec l'attaque à Saint-Étienne-du-Rouvray, on a même eu ce rappel que être chrétien, c'est être une cible. Cette attaque aurait pu avoir lieu dans n'importe quelle église, elle aurait pu avoir lieu dans la nôtre. Je trouve intéressant, utile, en cette rentrée, de nous rassembler autour d'une parole de Jésus pour surmonter ce défi de la violence. Pour être prêt pour la prochaine fois que nous y serons confrontés, que ce soit un attentat ou autre chose, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous vivons dans un monde violent, violent dans ses relations, avoir des relations compliquées avec des gens vraiment agressif qui nous traite comme des moins que rien. Un monde violent également dans ses structures. Et je pensais à ces gens qui peuvent être laissés sur la touche, incapables de retrouver du travail parce qu'ils sont trop vieux, trop jeunes, ou trop ceci, parce qu'ils ne correspondent pas à ce qu'on cherche. Nous vivons dans un monde violent, qu'il s'agisse de terrorisme ou d'autre chose, il est bon de savoir, d'écouter cette parole de Jésus. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais parler un peu du contexte. Nous avons parmi nous des prédicateurs qui nous rappellent toujours le contexte d'un texte, et c'est vrai que c'est important, surtout quand on prend un tout petit texte, pour ne pas se planter et ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Ce verset que nous avons lu se trouve dans le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, c'est l'envoi en mission des disciples. En mission, enfin, en stage pratique. Hein ? Jésus est encore là et il a eu ses disciples avec lui pendant un moment. Et là, il les envoie deux par deux pour un stage pratique de qu'est-ce qu'il faudra faire pour répandre le royaume de Dieu. Et dans tout le chapitre 10, il leur donne plein de recommandations pour cette mission. Et au cours de ces recommandations, il les prévient. Ils seront persécutés. Ils seront attaqués, malmenés à cause de leur foi. Qu'est-ce que la persécution ? Persécution, il me semble que voilà, la persécution, c'est quand on est attaqué de façon organisée, soit par les autorités, soit par la population parmi laquelle on se trouve, avec les autorités qui ferment les yeux. Et Jésus les met en garde par rapport aux persécutions. Il le dit juste avant, au verset 17, « Gardez-vous des gens, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous fouetteront dans leur synagogue. » Et dans un autre évangile, l'évangile de Jean, Jésus prévient également, « Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Ils ont persécuté le maître. Il est normal que les disciples, qui ne sont pas plus grands, soient aussi persécutés. Ce n'est pas forcément une réalité avec laquelle nous avons l'habitude, hein, dans notre pays, en France en tout cas. On vit dans une indifférence. L'État se fiche de nous, ne fait pas grand-chose pour nous, et ça nous convient aussi, puisqu'on fait à peu près ce qu'on veut dans le cadre des lois qui est fixé. On peut prier que ça dure, comme nous y invite Paul. Continuer de prier pour qu'on puisse louer Dieu en toute liberté. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde sont persécutés. Et je vous recommande, si vous ne suivez pas leur publication, le travail de Portes Ouvertes, qui met en avant constamment les épreuves que subissent les chrétiens dans tous les pays où ils sont persécutés. Cette semaine, dans l'email qu'ils envoient, le fil rouge, ils nous parlaient des chrétiens du Nigeria et de ces familles qui ont vu leurs filles enlevées et qui sont toujours sans nouvelles. Aux disciples sur le point d'être persécutés, Jésus indique qu'il ne faudra pas s'étonner de la persécution. Mais il les assure aussi qu'il sera toujours avec eux. Et il leur dit qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas utile, ce n'est pas pertinent. Et au milieu de ce discours sur la persécution, il y a cette parole que nous avons lue. Cette parole donc apportée dans un contexte particulier, celle de recommandation pour l'envoi en mission, mais qui a une portée, à mon avis, plus large, qui parle de la violence à laquelle nous pouvons faire face dans notre monde. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps dans la géhenne. Une petite précision sur un mot difficile, la géhenne. La géhenne, c'est un mot, ça désigne un lieu géographique. C'est la vallée de Ben Hinnom, à côté de Jérusalem, un lieu qui est chargé historiquement parce que sur ce lieu, il y a eu, au cours de cultes idolâtres, des sacrifices d'enfants. Et du coup, après une réforme, ça a été vraiment un lieu banni. Et à l'époque de Jésus, c'était probablement un lieu, une décharge sur laquelle on brûlait les déchets avec un feu qui brûlait en permanence. C'était le grand incinérateur de Jérusalem. Et quand on lit la littérature de l'époque, c'est un mot qui est utilisé pour désigner le lieu du châtiment final. Et c'est pour ça que certaines Bibles traduisent différemment. On retrouve « lieu de souffrance » dans la traduction « parole de vie » ou carrément « enfer » dans « Bible en français courant », « la semeur » ou « la seconde 21 ». Ce que dit ce texte, ce verset, c'est que oui, les gens violents existent, on ne va pas se voiler la face. Ils existent, ils sont nuisibles, ils peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent tuer l'âme. Par contre, il y en a un qui peut tuer et le corps et l'âme, c'est Dieu. Alors il ne faut pas mal comprendre ce passage. Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut avoir peur de Dieu parce qu'il est plus terrible que ceux qui peuvent être violents avec nous. Il ne faut pas remplacer une crainte par une autre. Ce n'est pas un texte qui dit « va, cours au-devant du danger, sinon ça va barder ». Et d'ailleurs, dans le même passage, Jésus dit bien de ne pas rechercher la persécution. Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre, dit-il. Donc il ne s'agit pas de rechercher la persécution parce que sinon Dieu est plus terrible et ça va barder. Mais je crois que ce passage nous dit trois choses. La première chose, c'est que nous sommes plus qu'un corps. Nous sommes plus qu'un corps physique. Nous ne sommes pas limités à cette enveloppe charnelle. Et ceux qui s'attaquent à nous par la violence ne peuvent pas nous détruire entièrement parce qu'on est plus que ça. Ils touchent à notre corps, c'est déjà beaucoup, mais ils n'ont pas accès à notre âme. Ils peuvent s'en prendre à notre corps, même de façon psychologique, avec des pressions, etc. Mais notre âme, notre relation avec Dieu, le fait que nous sommes réconciliés avec lui, le fait qu'il nous aime, que nous avons de la valeur parce qu'il nous en donne, le fait que nous le verrons après la mort, pour le jugement, et pour vivre toujours avec lui si nous avons choisi de le suivre. Eh bien ça, personne ne peut y toucher. Et face à la violence, souvenons-nous que rien ne nous détruit entièrement, mais que le plus important n'est accessible qu'à Dieu. La deuxième chose que ce passage nous enseigne, c'est que ceux qui usent de la violence ne sont pas tout-puissants. Ils usent de la violence pour obtenir ce qu'ils veulent. En pensant qu'en parlant plus fort, en frappant plus fort, ils auront ce qu'ils veulent et ils arrivent à dominer. Ils arriveront à dominer. Mais ce n'est pas le cas. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus d'eux. C'est Dieu. Je lisais dans un commentaire... Le pouvoir des humains a ses limites, même si l'acte de tuer peut se situer à l'intérieur de ses limites. Et c'est une bonne nouvelle de savoir que le pouvoir des humains à ses limites. Et puis la troisième chose que nous enseigne ce texte, c'est qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux, qu'il y a quelqu'un au-dessus des hommes violents. Il y en a un qui est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Il ne fait pas le concours de qui est le plus fort pour récupérer des fidèles, mais ceux qui veulent entrer dans une relation avec lui, ceux qui veulent le servir, accomplir la mission qu'il donne, ceux qui veulent être ses disciples, il leur promet qu'ils n'auront rien à craindre parce qu'il sera avec eux. Et c'est pour ça que ça se trouve ici, dans l'évangile de Matthieu, dans l'envoi en mission. Parce que les disciples doivent se souvenir que pour cette mission, Dieu est avec eux. Ils ne doivent pas être déviés dans cette mission. Ils peuvent la poursuivre sans crainte. C'est une parole rassurante. Le texte est une invitation à nous confier en lui. Non seulement nous sommes plus qu'un corps et nous ne pouvons pas être totalement atteints. Non seulement ceux qui me violentent sont limités, ils ne sont pas tout-puissants. Mais plus encore, le Dieu tout-puissant m'accompagne. Il est à mes côtés dans les épreuves et il me promet que je les traverserai. Fort de cette certitude, que faire ? Eh bien, que faire ? Poursuivre la mission. Ce n'est pas la violence qui doit nous arrêter. Poursuivre la mission, celle de faire des disciples qui font des disciples. Vous vous souvenez de notre projet d'église, de comment nous l'avons présenté ? Faire des disciples qui font des disciples, c'est amener les gens toujours plus près de celui qui est au centre de notre vie d'église, toujours plus près de Jésus-Christ et de ce qu'il veut. Et ceci avec 5 mouvements. Inviter nos amis pour qu'ils viennent, pour qu'ils puissent écouter, pour qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle, pour qu'ils puissent profiter de cette proximité de Jésus-Christ. Ceux qui viennent, les accueillir, transmettre l'accueil qui vient de Jésus-Christ et les accueillir pour leur donner envie de revenir. Troisième mouvement, prêcher. Expliquer le salut en Jésus-Christ. Expliquer que en lui est le pardon, en lui est la réconciliation. Qu'avec lui, nous pouvons être au clair avec Dieu, que tout est réglé. Et ensuite, tout ne s'arrête pas là. Tout ne s'arrête pas à la décision des personnes, tout ne s'arrête pas au baptême. Mais ensuite, continuer à enseigner tout ce que le Seigneur nous a prescrit pour vivre toujours plus comme il le souhaite. Et équiper ceux qui veulent être disciples pour qu'à leur tour, ils soient des disciples, qu'à leur tour, ils découvrent leur ministère et qu'à leur tour, ils fassent eux-mêmes des disciples. Voilà le projet d'Église que nous voulons vivre, ce mouvement avec 5 étapes, 5 verbes. Et je pense que même aujourd'hui, où notre pays est troublé, bousculé par la violence, qu'elle soit terroriste ou qu'elle soit autre, nous sommes invités à poursuivre sans crainte. Parce que rien ne peut nous atteindre profondément. Rien ne peut atteindre ce qui est dans la main de Dieu, protégé dans sa main. On m'a déjà posé la question, est-ce que ce projet est pertinent dans le monde d'aujourd'hui ? Avec les problématiques du monde d'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, est-ce que c'est toujours pertinent de faire des disciples ? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. parce que je crois que l'Évangile est une solution contre la violence. Sur les quatre mouvements que nous avons, j'attire votre attention sur le quatrième, enseigner. Enseigner ce que Jésus a transmis pour, à notre tour, le connaître et le mettre en pratique dans notre vie. Si nous faisons cela, eh bien, la violence recule. Face à la violence, l'Évangile a deux réponses. La première, c'est de ne pas le craindre, ne pas craindre la violence. Cette crainte qui nous mange, cette crainte qui nous paralyse, cette crainte qui nous gâche la vie. Nous avons en Jésus-Christ, nous avons dans l'espérance de la vie éternelle, quelque chose qui délivre de la crainte. Et notre monde gagnerait à être délivré de la crainte. Puis deuxièmement, l'Évangile bannit la violence. Le disciple de Jésus-Christ ne redonne pas la violence, mais il fait confiance à Dieu pour la justice. Et le disciple de Jésus-Christ veut briser le cercle de la violence en tendant l'autre joue, plutôt qu'en répondant par la violence. Aimer son prochain comme soi-même, voilà le programme de l'Évangile. Aimer son prochain comme soi-même, quelle que soit son origine, sa religion ou son absence de religion, quels que soient ses choix de vie, aimer son prochain, quel qu'il soit. Ce n'est pas facile, c'est un immense défi, d'où l'importance de continuer à enseigner. Mais Jésus l'a vécu. Celui qui le demande ne demande pas ça en l'air. Il l'a vécu face à une violence extrême où il a été mis à mort sur un instrument de torture. Eh bien, il n'a pas craint la violence. Elle ne l'a pas arrêté. Au contraire, il l'a traversée en restant artisan de paix pour accomplir la mission que le Père lui avait confiée. Alors, il y a du boulot. Il y a du boulot à commencer par nous-mêmes pour mieux comprendre ce que Dieu attend de nous, pour mieux le mettre en pratique. Et puis, il y a également du boulot pour le transmettre. Mais il faut en être convaincu. Lorsqu'un terroriste se convertit au vrai évangile, ça fait un terroriste de moi, voire plusieurs. J'avais été marqué pendant ma jeunesse par le témoignage de Nicky Cruz. Nicky Cruz, son histoire a été diffusée à travers un livre qu'il a écrit, qui a été traduit en français sous le titre « La croix et le poignard ». Il était chef de gang à New York, d'un gang particulièrement violent. Et il s'est converti à Jésus-Christ de façon spectaculaire. Il a rendu ses armes et il est devenu lui-même prédicateur et missionnaire dans son ancien quartier. Alors, pour nuancer, je dirais que ce n'est pas le but de l'Évangile que d'éradiquer la violence. Le but de l'Évangile est plus large que ça. Le but de l'Évangile, c'est établir le royaume de Dieu. Mais dans ce royaume, la violence a disparu. Vous le savez, le royaume n'est pas encore pleinement là. Mais les prémices sont là, dans ces prémices, il nous incombe de faire le ménage et supprimer la violence. Puis, nous aspirons au retour de Jésus-Christ et à l'installation définitive et entière de son royaume. Face à la violence, que faire ? Que faire ? Ne pas avoir peur et poursuivre la mission. Face à la violence, qu'elle soit terroriste ou autre, nous devons continuer avec notre Seigneur. En nous souvenant que les hommes n'ont pas tous les pouvoirs, en nous souvenant que nous sommes plus qu'un simple corps et que notre âme reste dans la main de Dieu, rien ne peut lui arriver. Poursuivons la mission. L'Évangile est solution contre la violence. L'Évangile, c'est la mission du Dieu que le Dieu Tout-Puissant nous confie. Il est là avec nous. Avançons sans crainte. J'ai prié. Seigneur, nous nous souvenons que Jésus a dit et répété de ne pas avoir peur. L'Évangile, cette parole traverse l'Évangile. Seigneur, nous voulons te prier que tu nous aides à le vivre vraiment, à garder les yeux fixés sur toi, sur la mission que tu nous demandes pour avancer en paix, sachant que nous sommes dans ta main et que tu nous gardes. Donne-nous cette assurance, Seigneur, s'il te plaît. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.